Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Coupable de harcèlement moral. France Télécom et ses anciens dirigeants condamnés à des amendes et peines de prison ferme. 10 ans après la vague de suicides, le jugement du tribunal de Paris vient d'être prononcé. Le caractère systématique du harcèlement au sein de l'entreprise est reconnu. Le taux de grévistes en baisse à la SNCF. Il est de moins de 10% ce matin selon la direction, près de 60% encore chez les conducteurs. Une trêve pendant les fêtes est-elle encore possible? La CFDT cheminots doit se prononcer aujourd'hui. La SNCF a-t-elle limiter la casse pour les voyageurs? Nous en parlons avec Bruno Gazot, le président de la Fédération des usagers de transport. Il y aura encore des grèves et manifestations après les vacances. La CFDT lancera des actions et mobilisations en janvier contre l'âge pivot, annonce de Laurent Berger ce matin sur France Inter. La CGT appelle à une journée de grève le 9 janvier. L'huile de palme va-t-elle finalement bénéficier d'une exonération fiscale? Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Bruno.
Rebondissement dans cette histoire qui risque de mettre en colère les défenseurs de l'environnement.
Oui, c'est une note de la direction des douanes qui redonne en catimini un avantage fiscal à des résidus gras d'huile de palme. Le gouvernement nous le confirme. Pour les ONG, c'est un énième passage en force.
A tout à l'heure pour les détails. Dans ce journal encore, vous venez d'entendre la météo. Alerte inondation sur la côte sud-est. À Cannes, quartier de la Boca, déjà inondé il y a 3 semaines. On se protège.
On va faire un gros trou exprès pour que l'eau s'évacue à l'intérieur et qu'elle ne rentre pas dans la maison. Et de l'eau, on en a chaque fois 40, 60 cm.
Un reportage complet. Tout à l'heure, nous irons aussi en Inde, nouvelle manifestation contre une loi qui exclut les musulmans. À 13h30, ce sera la Terre au carré. Bonjour cher Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Au menu aujourd'hui,
je reçois le médecin explorateur Jean-Louis Etienne qui publie Aux arbres citoyens, un livre dans lequel il parle de sa passion pour les forêts, les arbres et les bois. Et vous pouvez lui poser toutes vos questions et nous apporter vos témoignages si vous aussi les arbres vous passionnent.
01 45 24 7000 dès maintenant. L'émission c'est à 13h30. Avant cela, un peu de théâtre, un conte de Noël. Le film d'Arnaud Desplechin est adapté sur scène. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Dans le regard que l'on porte sur nos conditions de travail, sur le management, cette histoire a marqué un tournant tragique. Fin des années 2000, une série de suicides de salariés de France Télécom, aujourd'hui Orange. Y a-t-il eu au sein de l'entreprise, alors en pleine réorganisation, une politique systématique de harcèlement moral pour inciter des salariés à partir? Le procès s'est tenu au printemps dernier et le jugement a été prononcé ce matin au tribunal de Paris. Pour l'ancien PDG Didier Lombard et pour les ex numéro 2 et responsable des ressources humaines, 8 mois de prison avec sursis, 4 mois ferme, ce qui est sans doute trop bas pour qu'ils aillent effectivement en prison. Tous sont condamnés pour harcèlement moral ainsi que l'entreprise, 75 000 euros d'amende. Alors avant d'examiner ce jugement plus en détail, la parole du fils d'un salarié qui a mis fin à ses jours il y a 10 ans. Comment accueille-t-il ce jugement?
Il y a eu condamnation, certes, mais ils n'iront pas en prison. La gravité des faits de ce qui s'est passé à France Télécom, ça signifie aller en prison. Donc tant que eux ou d'autres ne sont pas allés en prison pour des actes comme ça, moi personnellement, je ne serai jamais complètement satisfait ni soulagé. Les extraits de la motivation que nous a lu la présidente du tribunal reconnaissent que ce qui s'est passé était une faute et que c'est une faute condamnable. Quand elle a dit « les moyens utilisés sont interdits », c'est ça qu'on attendait, c'est de qualifier juridiquement ce qui s'est passé à France Télécom. C'était une action volontaire et qui doit être réprimée. Les personnes qui sont prévenues dans cette histoire sont arrivées à ce procès détendu, sont permis de faire des blagues, de s'endormir pendant les audiences ou d'interrompre la présidente. C'est ça qui doit changer, ce sentiment d'impunité. La peur doit changer de camp. C'est pas les gens qui travaillent à France Télécom ou dans des entreprises qui subissent du harcèlement managériel institutionnel qui doivent avoir peur. C'est les gens qui mettent en place ces politiques qui doivent avoir peur d'être pourchassés par la justice et amenés en prison.
Raphaël Louvradoux au micro France Inter de Thibault Lefebvre. Lors du procès entre mai et juillet, les cas de 39 salariés avaient été examinés. Suicide, tentative, dépression, arrêt de travail. Il avait été question de mutation forcée, de baisse de rémunération, de mails plus qu'insistants. L'entreprise s'était lancée à la fin de la décennie 2000 dans un vaste plan de réorganisation. L'objectif alors était de 22 000 départs et 10 000 mobilités. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Corinne, vous êtes en direct du tribunal de Paris. Ce qui est important dans le jugement prononcé ce matin, c'est qu'il reconnaît le caractère institutionnalisé du harcèlement chez France Télécom.
Oui, la présidente très pointilleuse, hein, Cécile Louis-Loyant, a pris le temps de détailler ce très dense jugement. Elle a commencé par des explications juridiques. La loi qui réprime le harcèlement moral date de 2002 et le tribunal estime que le législateur n'a pas exclu le harcèlement moral institutionnel. Et c'est très important parce que ça veut dire ici que les hauts dirigeants de France Télécom, ceux qui sont le top management, eh bien ils peuvent être tenus pour pénalement responsables des conséquences tout en bas de la chaîne, c'est-à-dire, vous l'avez rappelé, des suicides, des dépressions, des arrêts de travail à France Télécom, générés par la mise en place du plan Next en 2007, qui visait à faire partir 22 000 personnes en 3 ans. Cette application de la loi est une première. Il est ici question de harcèlement moral systémique, comme d'un système. En conséquence, les trois dirigeants, Didier Lombard, Louis-Pierre Vénès, Olivier Barbereau, qui ont imaginé, mis en place la politique de l'entreprise, portent pour le tribunal une responsabilité partagée, puisqu'aucun n'a rien fait pour stopper la machine. Ils sont condamnés, vous l'avez rappelé, à 1 an de prison, c'était le maximum encouru, dont 8 mois avec sursis. L'entreprise condamnée à 75 000 euros d'amende. Tous devront également payer des centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts.
Alors Corinne, on sait déjà qu'il y aura un procès en appel.
Oui, Jean Veil, l'avocat de Didier Lombard, l'ex-PDG de France Télécom, a immédiatement annoncé faire appel de cette condamnation. Il conteste totalement l'analyse juridique du tribunal.
Il n'a jamais été question dans ce texte d'un harcèlement collectif et on est donc dans le contresens absolu. Je considère que cette décision n'a aucun support, aucun fondement juridique. C'est une faute de droit complète. Les magistrats ont cherché à se faire plaisir. Je le regrette. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour dire le droit et pas simplement pour faire de la politique.
Alors seule l'entreprise France Télécom devenue Orange a annoncé qu'elle ne ferait pas appel pour tourner cette page noire de son histoire.
Corinne Audouin en direct du tribunal de Paris avec Jérémy Thuil pour France Inter. Où en est-on dans la lutte contre le harcèlement moral? Ce sera le thème du Téléphone Sonne ce soir. Téléphone sonne, c'est à 19h15. Il n'y aura pas, sans doute, de trêve complète de la grève des cheminots le temps des fêtes. Alors que les vacances commencent ce soir, la certitude c'est que tous les trains, loin de là, ne rouleront pas jusqu'à mardi prochain, 24 décembre. À ce stade, les prévisions jusqu'à dimanche, c'est 1/2 pour les TGV, les Ouigo et les Intercités. Un petit peu plus, sans doute, lundi et mardi. La promesse, tous ceux qui ont acheté un billet à l'avance pourront voyager, n'aura sans doute pas été tenue. On en parle avec Bruno Gazot, les usagers des transports dans un instant. D'abord, reportage France Inter. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour Bruno.
Sébastien, vous êtes gare de Lyon à Paris. Quelle ambiance en ce jour de départ ?
Eh bien écoutez, jusqu'ici tout va bien. La gare est extrêmement peuplée, vous l'imaginez, mais pas de cohue, pas de scène de panique aux abords des trains, ce qui n'empêche pas quelques désagréments.
C'est un peu le bazar. Notre train qui était prévu à 10h39, finalement ne dessert pas Lyon-Saint-Exupéry.
Monsieur Dame, s'il vous plaît, embarquement pour Barcelone, Montpellier, passez par là.
Je devais partir, le train était annulé, donc voilà, je vais voir s'il y a un autre train ce matin. J'en sais rien.
D'où cette très longue file d'attente formée dès 10h ce matin devant les guichets et les bornes automatiques, dans l'espoir d'échanger son billet avec plus ou moins de succès.
Les trains sont complets. On me dit changez votre billet parce que mon train est supprimé, sauf qu'il n'y a pas de place dans les trains. Alors qu'est-ce que je fais ?
Les personnes qui ont un échange pour aujourd'hui,
il y a quelques trains. C'est un peu compliqué pour les Parisiens et surtout les banlieusards, quoi. Mais je pense qu'il faut le faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer comme ça. Sur la question de l'âge pivot, c'est absolument inacceptable.
Une bienveillance encore majoritaire à l'égard du mouvement qui se ressent ici au gré des rencontres, même si l'agacement commence à monter chez certains au 16e jour de grève.
Je veux rentrer à Marseille et j'en ai marre. Ça fait un mois que j'annule mes rendez-vous un jour sur deux. Je suis consultant, moi je perds de l'argent et moi je paye la retraite de tout le monde. On se fait bloquer tout un pays pour 8% des gens. Vive Macron, je vais voter pour les équipes de Macron municipales parce que maintenant il faut qu'ils réforment, on en a marre.
Et au-delà du soulagement de ceux qui peuvent partir en vacances, aujourd'hui, c'est déjà le retour qui inquiète. Les prévisions de trafic pour les 25 et 26 décembre sont très attendues, même si l'espoir d'une trêve complète à Noël semble désormais hors de portée.
Sébastien Sabiron, en direct de la gare de Lyon avec Martin Troadec. Et bonjour Bruno Gazot.
Bonjour.
Le président de la FNOT, Fédération Nationale des Usagers de Transport, transporter ce week-end tous les passagers qui avaient acheté un billet à l'avance et même jusqu'à mardi prochain. Cette promesse-là, qui était très ambitieuse, n'aura donc pas été tenue, Bruno Gazot.
Il fallait transporter 850 000 personnes sur les premiers jours et 400 000 les deuxièmes jours. En fait, la SNCF en transportera peut-être autant, mais pas ceux qui avaient un billet, puisque pour ceux qui avaient un billet, il y en a la moitié des trains ont été ou supprimer ou raccrocher à d'autres et les places ont été occupées. Et donc il y a en gros au début un tiers des gens qui n'avaient pas de place et qui n'en auront pas. Et sur les deux derniers jours, près de la moitié des voyageurs n'ont pas de billets. Donc soit doivent retrouver une autre destination et un autre horaire, soit renoncer à voyager.
Vous dites tout de même que la SNCF a limité la casse dans le contexte actuel ?
Je dirais qu'elle a fait le maximum d'efforts qu'elle pouvait faire. Elle s'est vraiment remuée pour essayer de trouver des solutions. Mais elle ne peut pas faire de miracle quand la moitié des conducteurs ou 60% des conducteurs sont en grève. Elle ne peut pas faire rouler 100% du réseau, c'est pas possible.
Alors, on parle beaucoup des TGV et des Ouigo. Vous, ce qui vous inquiète, entre autres, ce sont les TER, les passagers des TER.
C'est-à-dire que faut pas croire que les gens s'arrêtent dans les métropoles. Je veux dire, la France, c'est surtout à Noël, où ce sont des familles qui voyagent, des serres, beaucoup viennent de villes moyennes, de petites villes, du monde rural, et donc après les métropoles, il faut des correspondances, et quand vous vivez un TGV de 1000 personnes, trouver des correspondances dans les TER ou dans les autocars qui les remplacent, c'est pas simple du tout.
Et les TGV et les grandes lignes ont été privilégiées par rapport aux TER ?
Oui, on comprend la logique de la SNCF, c'était de desservir un maximum de gens, même si c'était pas sur l'intégralité du trajet. Donc voilà, ça ils l'ont plutôt, je pense, plutôt bien fait pour essayer de satisfaire un maximum de gens. En même temps, ils ont laissé évidemment les trajets terminaux ou les trajets transversaux une partie de la population sans solution, quoi.
De votre point de vue, est-ce que la politique de remboursement, là, ces premiers jours, ces premières heures quasiment, est à la hauteur ?
Alors, bon, si vous avez pris un billet et que vous le remplacez, que vous le faites rembourser, si vous l'avez pris par Internet, hein, par Oui SNCF, les virements sont automatiques. Moi-même, j'ai dû rembourser mes billets ce matin. Donc, les remboursements sont immédiats et il n'y a pas de problème. Là où il y a des problèmes, c'est si vous avez pris vos billets dans un guichet ou en payant par chèque ou en liquide, parce qu'à ce moment-là, la SNCF ne veut pas faire rembourser en liquide et préfère rembourser par virement. Donc, il faut aller au guichet et faire ce qu'il faut. Et puis, si vous êtes malheureusement parmi les gens qui n'ont pas de solution aujourd'hui, puisque leur train ne circule pas, et que vous devez prendre un autre train, ben, faut annuler votre billet et en prendre un autre plutôt et vous faire rembourser le précédent. Et ça, faut aller au guichet pour ça. Et je suis pas sûr qu'à ce moment-là, que le nouveau prix soit égal à l'ancien. Il peut y avoir des différences de prix qui sont pénalisantes.
Est-ce que vous êtes confiant pour la suite ? On voit que le taux de grévistes est en baisse ce matin. L'UNSA qui appelle à une pause, c'est le deuxième syndicat à la SNCF. La CFDT Cheminots qui doit se prononcer là dans les heures à venir. Est-ce que vous dites, bon, la deuxième semaine des vacances et la fin des vacances, ce sera plus facile ?
Non, moi je ne crois pas au miracle, si vous voulez. Je pense que entre les décisions nationales et les décisions au plan local, il y a quand même des écarts. Ensuite, il faut du temps pour remettre la machine en route. De toute façon, il n'y aura quand même qu'un conducteur sur deux ou un petit peu plus, parce que si j'ai bien compris, CGT, FO et Sud continuent le mouvement.
Oui.
Donc voilà, et ce qui est très pénalisant pour l'usager, c'est l'incertitude, quoi. Or, on le sait, les choses la veille ou l'avant-veille, c'est le cas des TER, hein. On le connaît la veille à 17h, donc c'est très, très tardif pour trouver des solutions alternatives. Non, je pense que la difficulté est réelle et qu'il faut que les usagers fassent preuve de beaucoup de patience pour affronter tout ça, mais c'est difficile.
Merci Bruno Gazot, président de la Fédération nationale des usagers de transport, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Alors, il y a moins de trains, c'est un jour de départ en vacances, il y a des conditions météo mauvaises. Quelles conséquences sur les routes, sachant que la journée est classée orange au plan national dans le sens des départs? Bonjour Maïwenn Bordron.
Bonjour.
Vous êtes au PC Mobilité de Radio France. Comment roule-t-on, Maïwenn?
Eh bien, sur les routes en région parisienne, un peu moins de 230 km de bouchons cumulés en ce moment. C'est très largement supérieur à la moyenne enregistrée sur les routes à cette heure-là. Pour vous donner une idée, à 13h, normalement en région parisienne, il y a environ 100 km de bouchons cumulés. Des difficultés de circulation donc renforcées par la grève dans les transports en public, c'est conforme à ce que prévoyait Bison Futé, une journée classée orange dans le sens des départs, avec une circulation dense dès la fin de matinée, notamment en direction des différentes barrières de péage. C'est le cas sur l'autoroute A6. Bison Futé vous recommande donc d'éviter de quitter l'Île-de-France ou les grandes métropoles aujourd'hui entre 10 et 15 heures ou après 20 heures. De même, pour demain, éviter les départs entre 10h et 18h. La journée est classée orange dans le sens des départs au niveau national.
Merci Maïwenn Bordron au PC Mobilité de Radio France. Alors venons-en aux négociations. On va le voir dans un instant. Selon Matignon, il y a eu des avancées concrètes hier et avant-hier dans les négociations globales sur cette réforme des retraites. Bonjour Hélène Filly.
Bonjour.
Au sein de la SNCF, à propos du régime spécial de cheminots, est-ce qu'on avance?
Alors en coulisses, hein, on vient de passer 48 heures de réunions, d'échanges de mails, de coups de téléphone, de multiples allers-retours pour aboutir à des avancées. Hier soir, les cheminots entreront plus tard dans la réforme. Ça, on le sait, hein, génération 80-85. Et la bascule, dit l'UNSA, ne se fera pas du jour au lendemain. Il devrait y avoir un calcul très subtil sur plusieurs années et une bonification de la période au statut, c'est-à-dire sous régime spécial. Progressivité, en gros, c'est le maître mot. Les entrants à la SNCF auront droit à un compte épargne-temps de 410 jours. C'est le double par rapport à aujourd'hui, qui leur permettra, par exemple, de partir plus tôt, s'ils le souhaitent, en retraite. Et puis, les dispositifs de pénibilité plus favorables dans l'entreprise seront maintenus, voire étendus, avec la possibilité, par exemple, d'une cessation progressive d'activité de 2 ans et plus un seul, y compris pour les contractuels. Avec toutes ces mesures, ce ne sont plus 50 000 cheminots qui seraient concernés par la réforme, mais entre 20 et 30 000, selon l'UNSA. C'est beaucoup moins simple à la RATP. Hein. Le bureau de l'UNSA note aussi des avancées, mais plusieurs de ces unions locales ne sont pas du tout sur cette ligne.
Alors, ce qu'Edouard Philippe a appelé hier des avancées concrètes, parlons de cela maintenant après les discussions de ces deux derniers jours sur la pénibilité. D'abord, le travail de nuit est mieux reconnu, les toutes petites retraites augmentées, plus de progressivité dans le départ en retraite pour les enseignants et les hospitaliers. En revanche, pas de réelle avancée sur l'âge pivot, même si le gouvernement évoque des marges de manœuvre. Ce n'est pas assez pour Laurent Berger, qui était l'invité de France Inter ce matin.
Je veux que l'âge pivot soit retiré cette réforme. Vous voyez, je le redis devant vous, mais personne ne peut être surpris de ça. Pour une raison simple, c'est que c'est injuste. C'est injuste, on va demander dès 2022, et je peux vous assurer que plein de gens en prennent conscience, c'est la mesure qui cristallise à juste titre le plus d'opposition. Plein de gens vont être impactés, on a plein de témoignages de gens qui comptaient arriver en retraite en 2022, 2023, 2024, et qui vont travailler 4 mois, 8 mois, 1 an supplémentaire. On a senti hier une grande détermination à le mener, à le faire, mais je vous le dis, ça va monter très très fort au mois de janvier, en désaccord sur cet âge pivot. Et la CFDT, à partir du 6 janvier, elle va interpeller les parlementaires, elle va aussi avoir des actions de mobilisation, spécifiquement sur cette action-là et sur la question de la pénibilité, parce que on peut pas accepter cette mesure injuste qui est d'abord une mesure de court terme.
Des actions donc et mobilisations menées par la CFDT en janvier sur cette question de l'âge pivot. La CGT et les syndicats contestataires de leur côté appellent à une nouvelle journée de grève le 9 janvier. Mais l'une des clés, c'est bien la relation entre le gouvernement et la CFDT. Est-ce qu'ils trouveront un terrain d'entente? Ça semble assez froid hein, entre Matignon et le premier syndicat français. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Karine, ce qui est probable, c'est que les députés En Marche vont pousser pour un accord avec la CFDT.
Oui, vous savez, entre les députés de la majorité et Laurent Berger, il y a toujours eu des liens importants et depuis très longtemps. À la rentrée de cette année, par exemple, en septembre dernier, le séminaire qui est organisé par La République En Marche est ouvert par le secrétaire général de la CFDT. Depuis le début de la mandature, les députés de la majorité et Laurent Berger se sont vus très souvent, en tout cas très régulièrement. Voilà pourquoi le syndicat va probablement essayer, et il a en réalité déjà commencé, d'utiliser cette relation pour tenter de peser auprès d'Edouard Philippe. Les CDTistes ont bien compris qu'une partie des députés macronistes sont gênés par les mesures paramétriques, le fameux âge pivot à 64 ans. Et ces députés-là constituent ce que l'on pourrait appeler un terreau que Laurent Berger a tout intérêt à cultiver. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour faire infléchir le gouvernement? Le texte sur les retraites doit arriver fin février pour être débattu à l'Assemblée. Est-ce que les députés d'ici là oseront l'amender, ce texte? Est-ce qu'ils le pourront? Vous savez, l'espace politique de la majorité face au gouvernement est en réalité assez serré.
Et avant le débat au Parlement, le projet de loi sera déposé en Conseil des ministres le 22 janvier. Le syndicat Force ouvrière, on appelle lui à Emmanuel Macron, il doit appuyer sur le bouton stop, on revient autour de la table sans préalable. C'est ce que dit Yves Verrier chez Force Ouvrière. Et si l'huile de palme bénéficiait finalement d'une exonération fiscale? La production de cette huile est responsable d'une partie de la déforestation dans les pays tropicaux. Elle est utilisée notamment comme biocarburant. Une passe d'armes, vous vous en souvenez peut-être, avait opposé gouvernement et députés le mois dernier. Les députés s'étaient opposés à une exonération fiscale sur l'huile de palme. Le groupe Total en fait une condition de survie de sa raffinerie de la Med. Mais la fibre écolo l'avait donc emporté en novembre. Pas d'exonération, mais une note des douanes, Célia Kiré, sème le doute.
Oui, effectivement, cette note des douanes sème le trouble, on peut même dire. Rédigée sans grande publicité, elle redonne un avantage fiscal à des résidus gras d'huile de palme. Il ne s'agit pas d'huile de palme brute, mais d'acides gras qui permettent de fabriquer des biocarburants. Et c'est là que la nuance est importante. Pour le gouvernement, ces résidus ne sont pas soumis aux mêmes règles que l'huile de palme. Donc, il ne s'agit pas d'un recul ni d'une violation de la loi. Mais pour les opposants, vous l'imaginez, il faut bien extraire de l'huile de palme pour obtenir ces résidus. Donc cette note n'est pas anodine. À partir du 1er janvier, théoriquement, les produits à base d'huile de palme ne pourront plus bénéficier d'exonération fiscale. Un amendement en ce sens a en effet été voté à l'Assemblée. Mais finalement, c'est un peu plus compliqué. Cette nouvelle niche fiscale est une victoire évidente pour Total, qui défend sa raffinerie de biocarburant de la Med. Patrick Pouyanné demandait même que l'huile de palme garde complètement son avantage fiscal jusqu'en 2026. Or, en maintenant cette exonération pour les acides gras issus de l'huile de palme, le gouvernement ne permet pas, selon les ONG, de réduire l'importation d'huile de palme brute et donc de lutter contre la déforestation. Certaines promettent même une action en justice si le gouvernement s'entête sur ce sujet.
Et on parlait déforestation, je vous rappelle que on parlera des arbres dans la Terre au carré avec Mathieu Vidard dans une dizaine de minutes. Aux États-Unis, même les démocrates ne croient pas que Donald Trump sera vraiment destitué. Depuis avant-hier, il est formellement mis en accusation pour avoir mélangé ses intérêts privés et la diplomatie américaine en Ukraine, procédure d'impeachment, mais il sera jugé par le Sénat à majorité républicaine à Washington. Sauf énorme surprise, il sera donc acquitté. Dans l'un de ses derniers tweets, Trump demande un procès immédiat, sous-entendu pour tourner la page et continuer à mener campagne pour sa réélection. Alors, qui sera le candidat démocrate face à lui? Il y avait le sixième débat hier au sein du parti d'Obama et des Clinton. Ça se passait à Los Angeles, Loïc Piala. Et c'est d'ailleurs peut-être une des faiblesses des démocrates. Il a beaucoup été question de Trump.
Clairement, aucun des sept candidats sur scène ne croit que le Sénat, majoritairement républicain, va destituer le président. L'impeachment ne fait de toute façon pas l'unanimité dans l'opinion publique. Alors, à l'image de Joe Biden, l'ex-vice-président toujours en tête des sondages, ils ne se sont pas attardés sur le sujet.
C'était une nécessité constitutionnelle pour la Chambre d'agir ainsi. Nous avons besoin de restaurer l'intégrité de la présidence et il est grand temps que l'on s'y mette.
Sans destitution, il faudra donc battre Donald Trump dans les urnes en novembre 2020. Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, est candidate la plus à gauche avec Bernie Sanders, a martelé son message.
Nous avons vu l'impact de la corruption. Ce qui est en jeu en 2020, c'est comment nous allons faire campagne contre le président le plus corrompu de notre histoire moderne.
Andrew Yang, homme d'affaires à la traîne dans les sondages, est lui passé à autre chose. Il invite les démocrates à ne plus se focaliser sur le président américain.
Plus on agit comme si Donald Trump était la cause de tous nos problèmes, plus les Américains perdent confiance en notre capacité à voir ce qu'il se passe dans leur communauté et régler ces problèmes.
Signe que l'espoir d'impeachment s'est peut-être essoufflé. Aucun candidat n'a parlé de l'Ukraine, pourtant au cœur de la procédure de destitution. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
L'Inde a la réputation d'être la plus grande démocratie du monde et d'après sa constitution, c'est un pays laïque et égalitaire. Eh bien, c'est beaucoup moins le cas sous la direction du nationaliste hindou Narendra Modi. Il vient de faire adopter une loi qui accorde la nationalité indienne à ceux venus de pays voisins qui ont fui les persécutions religieuses. Sauf les musulmans. Et les musulmans en Inde, c'est 200 millions de personnes sur 1 milliard 300 millions d'habitants. Et depuis l'adoption de cette loi, des manifestations ont éclaté à travers le pays. La répression a déjà fait 9 morts. Le climat était électrique ce matin encore, Koum Bastin.
Jamais le Premier ministre Narendra Modi et son parti BJP n'ont fait face à un tel mouvement de contestation. Depuis une semaine, des millions d'Indiens descendent dans la rue. Ils protestent contre une loi sur la citoyenneté qui favorise la naturalisation des réfugiés non musulmans et un registre de citoyens qui devrait à l'inverse priver de leur nationalité de nombreux musulmans. Malgré des milliers d'arrestations, la mobilisation ne faiblit pas. Brinda Karat, députée du Parti communiste indien, est venue manifester à New Delhi.
Je suis presque en larmes. Nous sommes clairement entrés dans une guerre civile entre les citoyens et l'État. La loi sur la citoyenneté est la continuité du registre des citoyens. Cela montre à quel point l'État a peur de son propre peuple.
À Bangalore, où je me trouve, d'importantes manifestations ont lieu depuis dimanche, malgré l'interdiction de tout rassemblement. Sojanya Ganig, 28 ans, travaille dans le domaine de l'éducation.
C'est le premier pas du gouvernement pour opérer un nettoyage ethnique en Inde. Aujourd'hui, c'est un deuxième combat pour l'indépendance indienne qui commence afin de repousser les forces qui veulent diviser l'Inde laïque.
Alors que deux personnes ont été tuées hier par la police dans la ville de Mangalore, et que la situation évolue d'heure en heure, le pays retient son souffle. À Bangalore, Combastin, France Inter.
En France, un chiffre symbolique ce matin, la dette publique de la France a dépassé les 100% du PIB au troisième trimestre, 100,4%. Quand un film devient pièce de théâtre, un conte de Noël, le titre et circonstances d'Arnaud Desplechin existe maintenant sur les planches. C'est l'une des créations très attendues du Festival d'automne en banlieue parisienne en ce mois de décembre. Histoire d'un réveillon de Noël difficile, c'est rien de le dire, en famille. L'adaptation et la mise en scène sont signées Julie Deliquet et la scène est coupée en deux, Stéphane Capron.
Julie Deliquet fait le choix du dispositif bifrontal pour cette pièce chorale pour entrer au cœur de l'intimité de cette famille déchirée par les secrets. À la veille de Noël, Junon et Abel reçoivent dans leur maison à Roubaix leurs enfants. Junon souffre d'une maladie dégénérative et doit trouver un donneur pour une greffe. Julie Deliquet possède un talent fou pour transposer les œuvres cinématographiques au théâtre.
Je suis amoureuse de certains films en tant que cinéphile, mais je n'imaginerais pas le passage au théâtre parce que dans la langue, j'estime que le passage n'est pas évident et que le film s'exprime peut-être plus par ses images et par sa convocation cinématographique. C'est vrai qu'avec Arnaud Desplechin ou comme j'ai pu le faire avec Bergman, c'est vraiment des dialoguistes. J'avais un nombre de mots et de dialogues énormes. On a choisi de garder la langue de Desplechin, de ne pas convoquer forcément une langue d'improvisation. Par contre, de recomposer le récit en l'ayant complètement désossé et en rebâtissant notre propre squelette à nous.
Julie Deliquet transforme la pièce en drame shakespearien. Autour de la table, il y a de la haine, des larmes, de la mélancolie, mais aussi de l'amour. Elle sait admirablement bien mettre en scène les tourments de la vie. C'est un véritable uppercut théâtral. Well, I think it's fine building jumbo planes,
taking a ride. Est-ce que vous entendez là? C'est Where Do the Children Play de Cat Stevens qui fait partie de la bande originale de ce conte de Noël que l'on peut voir ce soir à Marne-la-Vallée, à la ferme du Buisson, et à partir du 10 janvier aux ateliers Berthier du théâtre de l'Odéon. Allez, avant d'entendre, le bulletin météo, reportage. Une fois de plus, une partie de la France est en vigilance orange. 14 départements le long d'un couloir qui va de la Côte d'Or au Var. Attention en particulier aux inondations sur la côte sud-est, les Alpes-Maritimes entre autres. La ville de Cannes a déjà été violemment touchée fin novembre, début décembre. Alors dans le quartier de la Boca, on prend toutes les précautions possibles, Marion Chantreau.
Cet habitant a creusé un trou devant sa maison. Rejoint par plusieurs voisins, ils s'affairent avec des pelles pour tout reboucher.
On fait un vase d'expansion pour récupérer les eaux de pluie. Ça peut éviter les inondations. Sous la terrasse.
On travaille même le midi, on ne s'arrête pas. On va faire un gros trou exprès pour que l'eau s'évacue à l'intérieur et qu'elle ne rentre pas dans la maison.
Et de l'eau, on en a chaque fois 40, 60 cm.
Certains en veulent à l'entretien des réseaux d'eau.
Mauvais entretien des évacuations pluviales. Les tuyaux sont trop petits par rapport au débit, ça a été mal fait.
Jacques est propriétaire d'un petit lotissement dans l'impasse. Pour lui, on a pris conscience du risque. Maintenant, on anticipe et les vallons sont mieux entretenus.
2015, par exemple, on avait eu beaucoup de détritus, des carcasses de scooters, des carcasses de machines à laver et qui avaient bouché le conduit. Cette fois-ci, on a eu que du végétal. Bon, ça, c'est de la discipline de l'ensemble des riverains. Hein.
Les résidents ici protègent leur maison avec des sacs de sable ou des bâtards d'eau devant les portes.
Ailleurs, le vent a soufflé très fort ces dernières heures du côté de Saint-Étienne, des rafales à 130-150 km/h. Avant cela également sur les Pyrénées, pointe à 207 km/h à Irati dans les Pyrénées-Atlantiques. Allez, regardons le temps des heures à venir en détail.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poules en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Pierre Hameau.
Soyez vigilants dans le sud-est ainsi qu'en Corse. Les pluies sont encore fortes jusqu'en fin de journée. On attend sur l'ensemble de l'épisode 100 à 120 mm de pluie, localement 150. Et attention au risque élevé d'avalanche sur le Mercantour. Des Alpes du Nord à la Franche-Comté jusque vers la Lorraine et l'Alsace, la pluie sera au menu de votre après-midi sous un ciel couvert. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses dans une atmosphère ventilée. Demain, après une matinée plutôt calme, arrivée d'une nouvelle perturbation active par l'ouest s'étirant de la Bretagne à la Normandie et jusque vers l'Aquitaine. Le vent d'ouest va se renforcer le long de la côte atlantique avec des rafales proches de 100 km par heure. Comptez déjà 80 à l'intérieur des terres et attention, ces vents deviendront tempétueux dans la nuit de samedi à dimanche.